Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Salut tout le monde et bienvenue à bord de cette émission consacrée à l'histoire et plus précisément à la façon dont on raconte l'histoire dans les manuels scolaires.
Salut André.
Bonjour à tous.
Pourquoi tu es devenu prof d'histoire? Tu aurais pu enseigner autre chose ou voire même faire autre chose que de l'enseignement?
Oui, c'est vrai. Et j'ai fait des études secondaires scientifiques. Tout m'intéressait. J'ai pensé un moment en faire ingénieur agronome ou ingénieur des eaux et forêts. L'histoire me plaisait, mais je dirais pas tellement plus. Un professeur, cependant, m'a conseillé en première, m'a dit « Vous êtes fait pour faire de l'histoire, faites de l'histoire, faites des études d'histoire. » Et je pense qu'au dernier moment, après le bac, il m'a conduit à m'inscrire en histoire. Peut-être aussi parce que, bon, on cultivait l'histoire dans ma famille. Mon père faisait de l'histoire. En quelque sorte, l'histoire de ma famille était déjà de l'histoire. J'avais un grand-père de Moselle qui avait fait la guerre dans l'armée allemande en 14-18. Et c'était les gens de Moselle, hein. C'était des Allemands jusqu'en 1918. Et puis, mon père avait fait de la résistance, a été déporté, était engagé politiquement, commentait abondamment l'actualité, c'est une chose naturelle pour moi. L'histoire, l'actualité, la politique, ça me plaisait. Je pense que c'est un goût. Dans mes prédilections littéraires, j'aimais beaucoup les romans qui me transportaient dans une autre époque. C'est tout naturellement que j'ai fait de l'histoire et je m'en suis jamais repenti. J'ai toujours aimé l'histoire, toutes les histoires d'ailleurs, depuis la Grèce jusqu'à De Gaulle, tout m'intéresse en histoire. J'ai fait 37 annuités de cotisation à la Sécurité sociale. J'ai donc enseigné en collège, en lycée technique, dans à peu près toutes les filières, sans que j'ai aimé plus une filière qu'une autre filière. L'enseignement de l'histoire est tout un, quel que soit le public. Je suis tombé le jour du CAPES sur la décolonisation au Maroc et en Tunisie. Il y avait dans le jury une dame qui arborait une croix de Lorraine sur son béret bleu. Et ça ne m'a pas empêché de parler très librement. Et ça ne m'a pas coûté mon admission au CAPES. Bon, le jour de mon CAPES pratique, malgré les avertissements de mes conseillers pédagogiques concernant l'inspectrice, je suis tombé sur une leçon sur le bolchevisme et une leçon de géographie sur l'Égypte. Je n'ai pas mis mon drapeau dans ma poche. Et d'ailleurs, j'ai eu des réflexions de l'inspectrice. Elle me soutenait que le régime tsariste en 1917 n'était plus autocratique. Ah ah ah, parce qu'il y avait une Douma, etc., etc. Enfin bon, bref, je crois qu'il faut du courage. Bon, je veux vous paraître fanfaron, prétentieux, etc., mais je crois ne jamais manquer de courage intellectuel. C'est un métier qui réclame un courage intellectuel, oui.
Qui écrit l'histoire qu'on trouve dans les manuels scolaires?
Il y a un conseil des programmes. Il y a des inspecteurs généraux, il y a des hauts fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale qui décident des programmes. Il y a une instance paritaire qui rassemble des représentants des enseignants et des inspecteurs, mais tel que c'est fait en France, on sait bien que c'est d'abord la volonté du ministère, du pouvoir politique qui prédomine là-dedans. C'est évident. Or, ces gens se cooptent entre eux. La bonne question, ce serait qui nomme les inspecteurs ? Qui donne les instructions aux inspecteurs? Et pourquoi les inspecteurs sont-ils le petit doigt à la couture du pantalon? Parce que c'est ce qui se passe. Sous la 4ème République, un temps décrié encore, il y avait une relative autonomie de ces inspecteurs qui représentaient leur discipline, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je suis contraint de dire que ces gens sont à la botte du ministère qui lui-même a une politique en matière d'éducation. Et cette politique, elle est une politique idéologique. Sinon, je n'arriverai pas à comprendre pourquoi ça va toujours dans le même sens. Cette histoire est au service de qui? Qui a intérêt à occulter ou au contraire à surévaluer des points ou à déformer l'histoire, à raconter des histoires? Et quel est le résultat de cette histoire? C'est le décervelage, hein, c'est l'amnésie généralisée de la population. Qui profite de cette amnésie de l'histoire aujourd'hui? Le décalage qui existe entre la situation réelle, économique, sociale, et l'extrême passivité, défaitisme de la population, en grande partie alimenté par le fait que ces gens n'ont plus de repères. En fait, c'est bien une population sans histoire, une population sans tradition, une population sans mémoire historique, est une population qu'on peut exploiter. Aujourd'hui, je dirais que la grande finance mondiale, européenne, est en train de racketter les États et d'avoir un peu oublié son histoire sociale et son histoire politique fait accepter l'inacceptable. Il n'y a plus besoin de religion aujourd'hui. Il suffit de créer des mythes laïques, des mythes historiques, des mythes sociaux. Il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus de lutte de classe, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Et voilà, vous avez un peuple de moutons. C'est un peu anarchiste ce que je vous dis, mais enfin, bon, c'est ce que je pense. Des gens sans histoire ne peuvent pas se battre, ils n'ont plus de référence. Il y a une histoire rigoureuse, une histoire qui a des méthodes universitaires, des méthodes de rigueur, et qui permet de ne pas raconter n'importe quoi. On ne peut pas raconter n'importe quoi. C'est Paul Valéry qui avait dit une fois, je crois, qu'on pouvait faire dire n'importe quoi à l'histoire. Ça dépend quelle histoire. Si c'est une histoire rigoureuse, non. Une histoire basée sur des sources recoupées, vérifiées. Cette histoire-là ne peut pas raconter n'importe quoi. Elle peut avoir des interprétations sur les bords légèrement différentes, mais elle dira toujours la même chose. En revanche, effectivement, si on triture l'histoire, on peut lui faire raconter un peu n'importe quoi. Et dans ces cas-là, c'est l'histoire des vainqueurs. Et bien sûr, c'est ceux qui gagnent qui racontent l'histoire. Les Américains ont gagné la Seconde Guerre mondiale, ils ont raconté leur histoire. Hein. Bon, actuellement, la droite est au pouvoir depuis bien installée depuis un certain temps. Le patronat, les forces de la grande bourgeoisie, du grand capital, ont le pouvoir en France, je veux dire les choses brutalement, et ils imposent leur histoire, qui est une histoire, bien sûr, parfaitement inoffensive pour eux, hein. Et c'est de ça qu'on souffre, effectivement. C'est une histoire qui, en fait, organise une sorte d'amnésie collective, au mieux d'histoire mystifiée, d'histoire légendaire, d'histoire inventée, quoi.
Élève la bêlure. Vous êtes premier en histoire de France. Eh bien, parlez-moi de Vercingétorix. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance? Répondez-moi bien et vous aurez 10. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Vercingétorix, né sous Louis-Philippe, battit les Chinois un soir à Roncevaux. C'est lui qui lança la mode des slips et pour sa mourue sur un échafaud. Le sujet est neuf, bravo, vous aurez 9. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papille, au lycée papillon.
Et l'histoire qu'on doit enseigner en cours, qui l'écrit ?
Je veux dire des choses désagréables, vous me pardonnez d'avance. Si on est un piètre historien, on est prisonnier d'un manuel, si mal fait soit-il. Si on est un bon historien, on peut se libérer et du programme et du manuel et faire une histoire réelle, sincère, allant à l'essentiel et éclairant l'histoire. L'effort de l'historien doit être de pouvoir critiquer aussi bien les manuels que ses lectures. C'est ce travail de critique, le travail de l'historien. Il doit avoir un recul par rapport à ce qu'il lit. Il ne doit pas essayer de trouver absolument dans un ouvrage ce qu'il pense au préalable. Il doit faire un travail de tri critique, d'évaluation, et il doit en permanence se former. Ça a été assez pénible pour moi d'être en permanence en porte-à-faux vis-à-vis des programmes officiels. En revanche, c'est passionnant sur le plan intellectuel parce que ça m'oblige à lire beaucoup, tout le temps. Et à remettre en question des lectures antérieures avec des lectures plus récentes, etc. Enfin, c'est un travail en permanence de critique. Et ce travail de critique, malheureusement, il se heurte à des instructions officielles et à des manuels qui sont faits par des gens qui, je pense, ont des projets derrière la tête. Ce qui se fait depuis les années 90 et qui s'est accentué dans les années 2000, ce n'est pas innocent. Je pense que c'est une certaine version de l'histoire. En tout, vous voyez comment est présentée la Ve République. Vous ne pouvez pas penser que c'est innocent. J'ai toujours éprouvé, je dois dire, un malaise devant les textes officiels, devant les programmes, etc. J'ai commencé à enseigner l'histoire au milieu des années 70 et la première, je dirais, attaque officielle contre l'enseignement de l'histoire, ça a été la réforme Habi, en 76, je crois. Habi était ministre de Giscard d'Estaing et ça a été la première attaque contre l'histoire. C'est la première fois que l'on a essayé de toucher gravement à la continuité chronologique de l'histoire, où on a essayé d'éclater la chronologie historique et de faire étudier l'histoire par thème. hein, en sixième, l'agriculture à travers les âges, du néolithique jusqu'à la moissonneuse batteuse. En cinquième, le commerce à travers les âges, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et puis, ça a été très combattu par les enseignants. Je me souviens d'une réunion de la Société des historiens de l'Académie de Rouen, où j'enseignais. Albert Sauboul, le professeur d'histoire de la Sorbonne, était venu et avait tempêté contre l'histoire par thème. Je me souviens, il avait dit, mais bientôt, on enseignera l'histoire de la culotte à travers les âges. Ça avait fait beaucoup rire. Et en fait, les historiens se sont, dès le départ, gendarmés contre ça. L'histoire a besoin d'une continuité chronologique. Même si on n'en est pas complètement prisonnier, il est absolument nécessaire de faire comprendre que l'histoire s'inscrit dans un temps, avec des périodes, avec des phases, et que si on bouleverse ça complètement, ce n'est plus compréhensible du tout. Et aujourd'hui, ça y est, on est arrivé au stade final de la désorganisation, de désarticulation complète de l'histoire. Il s'agissait quand même de faire éclater les périodes successives de civilisations, de types de systèmes socio-économiques qui se succédaient dans un certain ordre et pas dans n'importe lequel. Et en quelque sorte, peut-être d'introduire l'idée que, ma foi, il y a le commerce. Hein, le commerce a évolué, mais enfin, il n'y a pas eu de rupture. Même chose pour l'agriculture. Alors que agriculture, commerce ou industrie, n'importe quelle activité humaine s'inscrit dans une société, s'inscrit dans un temps, dans une époque, etc., avec une logique, et il y a une articulation entre cette histoire économique et l'histoire sociale et politique, c'est évident. En faisant éclater ce cadre chronologique, ça permet de faire disparaître l'explication historique. Les évolutions, les révolutions, les changements n'ont plus de sens à partir du moment où vous laissez penser qu'il y a une longue évolution depuis le char à bœuf jusqu'au TGV, etc. C'est très mauvais. Il est bon de faire de l'histoire totale. Alors, je veux bien que, comme cette histoire est très vaste, on choisisse des périodes, des thèmes, etc., et qu'on ne fasse pas absolument tout. Il est illusoire de vouloir commencer par le pharaon Ramsès II et terminer par Pompidou. Au nom d'une chose qui est juste, c'est-à-dire d'éviter d'accumuler d'énormes connaissances chez les élèves, impossibles à assimiler, au nom de ça, eh bien, on a vidé complètement l'histoire de l'événement.
À quoi ça sert ?
Bien sûr, évidemment, il y a un enjeu politique. À partir du moment où vous videz l'explication sociale et politique, vous rendez l'histoire totalement inoffensive. L'histoire ne peut plus servir au présent, ne peut plus servir de comprendre le présent ou d'entrevoir l'avenir. On dit, vous savez, cette formule archi-ressassée, un peuple qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir. Voilà, ça y est, nous n'avons plus de passé compréhensible, nous n'avons plus d'avenir.
Que l'histoire prendrait plus de sens si on l'auscultait à l'aune d'une histoire du capitalisme.
Je ne veux pas faire une histoire du capitalisme. Il suffit de faire une histoire tout court, de la société et en même temps de la politique, sans les séparer, sans dire d'un côté l'économie. Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'expliciter un tel titre, de dire une histoire du capitalisme, pour la faire. Vous faites le 19e siècle. À la limite, ça ne me dérange pas que l'actuel programme s'intitule « La société industrielle qui se met en place au 19e siècle et qui va se développer ». Ça ne me dérange pas, parce qu'à la limite, vous pouvez dire les choses crûment ensuite après à vos élèves. Quelle société, quel rapport de production, ce qui est gênant, c'est ensuite après le découpage. C'est d'en faire une histoire strictement, je dirais, industrielle, sans aucun lien avec l'histoire politique. C'est ça le danger, hein. C'est désarticuler l'histoire, parce qu'en première, on a une histoire de la société industrielle. Elle va même jusqu'à la crise capitaliste mondiale de 1930. Mais en fait, vous videz les événements de leur sens quand vous les extrayez de trucs comme ça. Le capitalisme en 1850 et jusqu'en 1930, c'est monstrueux comme découpage. Ça permet par exemple ensuite après de ne plus parler de la crise capitaliste, la grande crise mondiale des années 30 au moment où vous faites le fascisme. C'est bien pratique, hein, vous avez vu ? Tap, tap, hop. C'est pareil, l'histoire de la commune disparaît en tant qu'histoire et elle devient une histoire qu'on évoque à propos de l'installation de la Troisième République. Alors, on a bien eu du mal à installer la Troisième République parlementaire, démocratique, etc. Il y a eu des incidents, les royalistes, la commune de Paris, etc. Ça devient plus qu'un épisode, une péripétie d'une grande histoire qui est l'histoire de l'installation de la grande République démocratique. c'est zéro, ça. Non, faut faire des périodes. Faut réellement faire des périodes. Et dans la période, vous allez depuis la condition ouvrière jusqu'à la société bourgeoise, en passant par les événements qui ont marqué cette histoire. C'est une monstruosité, les manuels. Vous avez sur une même page des documents qui ont 80 ans de distance. En même temps, un truc sur le travail des enfants en 1850 et un truc sur une famille ouvrière en 1903. Et il s'est rien passé entre les deux. Mais vous pouvez pas utiliser des documents comme ça. Alors les documents sont en eux-mêmes excellents, mais là ils sont inutilisables. Moi, je peux pas utiliser le manuel. Ou alors je suis obligé de faire passer les pages, vous verrez les découpages qui est en terminale. C'est monstrueux, ils retirent la politique coloniale de l'affrontement Est-Ouest. Dès que vous voulez sortir un aspect de l'histoire générale, vous faites une monstruosité contre l'histoire. Et c'est ce qui est fait systématiquement. Alors on dit, vous voyez, on en parle, hein, on en cause. Hein. Et en fait, on évacue des problèmes. Quand vous songez, par exemple, que la guerre du Vietnam a quasiment disparu du manuel d'histoire de terminale. La guerre du Vietnam a quasiment disparu. Moi, j'ai un manuel, il n'y a que trois lignes.
À quoi ça sert d'évacuer la guerre du Vietnam de l'histoire?
Ça sert, à évacuer ce que l'on a appelé l'impérialisme, c'est-à-dire la construction d'un empire économique, etc., qui d'ailleurs est toujours une question d'actualité, plus que jamais. Or, c'est au nom de cette lutte contre l'impérialisme que s'est fait cette guerre-là. Ça permet de ne plus comprendre les événements présents, c'est bien. Comment vous pouvez comprendre la surpuissance américaine aujourd'hui, puisque vous avez évacué toute une partie de son histoire des années 60-70 le fait aussi, par exemple, de séparer très soigneusement les luttes coloniales que l'on appelle d'ailleurs décolonisation, ce qui fait un peu sourire lorsqu'on voit ce qui s'est passé avec la France. Il vaudrait mieux appeler ça les guerres coloniales que la décolonisation, soit dit en passant. Quand on sépare ces luttes coloniales des luttes impérialistes qui existaient dans des territoires qui n'étaient pas officiellement, n'étaient pas juridiquement des colonies, mais dont le sens des luttes était le même que les guerres coloniales, alors on ne comprend pas. C'est formidable.
Je vous ai compris.
Le problème va de moins en moins se poser puisqu'il est question, dans certaines filières, de supprimer les cours d'histoire. Donc, comme ça, il n'y aura plus de manuel erroné.
Ah bah oui, on va faire comme dans des pays anglo-saxons ou autres où il n'y a pas d'histoire. En particulier dans les filières techniques, pourquoi faire de l'histoire? Et ça, c'est une rupture avec une tradition française. On fait de l'histoire en France, ça fait partie de... Le législateur, jusqu'à présent, a considéré que c'était une matière dont on ne pouvait pas se passer jusqu'à... Notre nation, notre république, notre citoyenneté se bâtissait sur une connaissance d'une histoire. En faisant ça, vous liquidez une certaine citoyenneté. Comment voulez-vous que les gens se battent pour de nouvelles institutions, de nouveaux fonctionnements, une démocratie? Ça m'est arrivé de le dire brutalement à certains élèves. Je dis, s'il y avait une dictature en France, une vraie dictature, vous ne vous en apercevriez même pas. Parce que vous êtes plus capable de faire la distinction entre régime démocratique et dictature. Les repères sont brouillés. Quand on présente la Ve République comme un régime démocratique, parlementaire, ça fait hurler, quoi. Non, ce n'est ni un régime démocratique, ni un régime parlementaire. C'est une monarchie élective. Tous les 7 ans, puis tous les 5 ans, on élit un roi. Et les pouvoirs présidentiels sont complets. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. C'est pareil, le mythe de la séparation des pouvoirs qu'on enseigne à tous les élèves de collège, de lycée, etc., qu'on est censé enseigner, c'est un mythe. Il n'y a jamais de séparation des pouvoirs dans la Ve République.
Je vous ai compris. Je vous ai compris.
Tu vas prendre ta retraite cette année, là? Quel regard tu poses sur tes jeunes collègues, ceux qui reprennent le boulot de prof d'histoire?
C'est une question délicate, hein, parce que je n'aime pas parler sur les collègues. D'abord, je n'en connais que très peu. Hein. En fait, il y a assez peu d'instances de discussion. Je connaissais bien plus de collègues au début de carrière, où on avait une quantité d'instances de discussion, d'échanges, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, pour ce cas comme pour le reste, les gens sont renvoyés à un isolement qui était difficile à vivre. Les seuls collègues dont je pourrais parler seraient les collègues les plus proches. Et je n'ai pas tellement envie d'en parler. Je dirais, voilà, de façon plus générale, qu'ils sont mis dans des conditions d'enseignement extrêmement difficiles. Puisque moi, je suis parti quand même avec une situation relativement saine. Et que ça m'a donné de la force pour supporter l'évolution, la dégradation dont je vous ai parlé. Alors qu'eux, ils arrivent en plein dedans. Et tout est fait pour obtenir une normalisation, une caporalisation du métier qui est très visible dans les UFM, dans les instructions officielles, Il aurait fallu aussi parler de la pédagogie, du rôle de la pédagogie dans ce crime contre l'histoire. La pédagogie a joué un rôle négatif, très négatif, dans l'évolution de l'enseignement de l'histoire. Hein, alors eux, ils sont en plein dedans. On leur demande quasiment de faire une certaine pédagogie, pas une autre. Ils sont notés, et sévèrement, hein, sur des pratiques, etc., que, des présupposés pédagogiques qui sont extrêmement contestables.
On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon.
Mais une chose très promue et qui reste encore un peu au centre des pratiques pédagogiques actuelles, c'est qu'il faut que l'élève découvre lui-même la réalité historique. Hein, on lui fournit toutes sortes de documents. À partir de ces documents, on lui demande d'élaborer une analyse. S'il n'a pas les connaissances, on a bien compris que c'était un exercice totalement vain. À une série de documents soigneusement choisis, on peut faire dire tout et n'importe quoi. Apprendre à analyser un document, soit, bien sûr, je dirais même que c'est indispensable. L'histoire, ce sont des documents, iconographiques ou écrits. Mais de la façon dont c'est fait, c'est-à-dire dictature de la découverte, c'est parti de méthodes pédagogiques relativement anciennes, hein, où il fallait que l'élève fasse sa propre expérience, etc. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pédagogie que de crimes on commet en ton nom. Parce qu'on peut faire n'importe quoi à la pédagogie. La pédagogie a servi à vider l'histoire de son contenu. Ça, c'est absolument certain. Et il y a des gens avec plein de bonne volonté qui ont participé à cette évacuation de l'histoire, de l'événement, de la connaissance, etc. Bon, ces jeunes collègues sont plongés là-dedans aujourd'hui et dans des conditions assez difficiles. Tout dépend de leur expérience d'avant. C'est-à-dire si leurs études sont très solides, si ces gens sont encore curieux, exigeants avec eux-mêmes. Ça fait beaucoup de conditions. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui, c'est que toute une génération de profs s'en va, la grosse masse des profs, 30-40% de la classe d'âge des professeurs s'en va à la retraite. Et pas de transmission, ou très peu de transmission entre nous et ces jeunes collègues. On les livre en quelque sorte un petit peu sans défense aux charlatans de la pédagogie, aux charlatans des méthodes. J'ai eu une stagiaire il y a quelques années qui préparait activement sa leçon en face du conseiller IUFM qui devait lui faire passer sa leçon. Son gros souci était de savoir comment utiliser les différents appareils audiovisuels, diapositives, rétroprojecteurs, magnétophones. Il fallait qu'elle fasse preuve dans sa leçon, d'abord avant tout, hein, de sa dextérité dans l'utilisation de matériel de ce genre. Son souci n'était pas « qu'est-ce que je veux faire passer ?» et éventuellement « quels moyens, quels outils je vais utiliser pour faire passer ?» Non, c'est d'abord « quel matériel je vais faire passer ?» et ensuite après « qu'est-ce que je vais mettre dans mon cours en quelque sorte ?» Tyrannie de la machine. Alors aujourd'hui c'est l'ordinateur, hein, il faut être très très moderne sur l'ordinateur, mais si le temps que vous à mettre en œuvre et à utiliser ce matériel en fin de compte se fait souvent au détriment du contenu lui-même du cours, alors bien sûr vous satisfaisez une certaine prédilection des enfants pour les ordinateurs, tout comme ça c'est ludique, l'histoire spectacle. Est-ce qu'un bon prof c'est celui qui sait se servir d'un monitoring ou est-ce que c'est celui qui sait transmettre un savoir Bon, maintenant, une grande partie du travail des profs, c'est de faire leurs propres outils, de faire leurs propres instruments. Il faudrait qu'ils refassent leur manuel eux-mêmes avec la machine, etc. En réalité, c'est beaucoup plus simple d'utiliser les programmes qu'on nous fait. Obligamment, les éditeurs nous font le matériel qu'on doit passer sur les ordinateurs. Les collègues, il me semble, sont de moins en moins maîtres de la matière qu'ils enseignent, de son contenu, de sa signification, de son implication, puisque maintenant ce sont les éditeurs, ce sont les institutions qui vont fournir le matériel. On met les élèves devant un truc et puis ils vont découvrir la vérité qu'on veut bien leur faire découvrir. C'est très peu critique. Bon, je suis à l'ancienne, moi. Je crois que quand les citoyens ne seront plus à même de savoir quel type de régime les dirige, comment fonctionnent les institutions et quel est leur rôle là-dedans quand ils savent plus où est leur place, effectivement, où la République est en danger de mort.
La vérité n'est pas du côté du plus grand nombre, effectivement, parce qu'on ne veut pas qu'elle y soit. Le jour où le plus grand nombre sera à même, par sa culture et ses connaissances, de choisir lui-même sa vérité, il y a peu de chances pour qu'il se trompe.
Le point de départ de cette émission, c'est une engueulade que j'ai eue avec des copains. On parlait d'histoire, justement, et ils m'ont soutenu mordicus parce qu'ils l'avaient appris à l'école. Qu'en 1914, les Français sont partis, la fleur au fusil, heureux d'abandonner leur foyer, leurs femmes et leurs enfants, la joie au ventre de quitter tout ça pour aller crever du boche à la baïonnette. fous de joie d'abandonner leurs champs, leurs récoltes, leurs ateliers, leurs familles. Alors même si on a conscience de la propagande anti-allemande dans laquelle les gens étaient élevés, et ce dès le plus jeune âge, est-ce qu'on peut continuer à dire que les Français sont partis la fleur au fusil faire la guerre aux Allemands ?
Non, c'est la grande masse des soldats français, c'était des paysans et des ouvriers, et des petites gens, où les autres classes sociales ont aussi donné leur sang, des employés, des instituteurs, des curés, des fonctionnaires. Je pense que, en particulier dans les classes les plus modestes de la population, non, je pense pas qu'il y ait eu un mouvement d'enthousiasme patriotique, malgré toute la propagande qui avait eu lieu auparavant. Cependant, quand même, un bémol, cette propagande, elle a quand même fonctionné, et elle a fonctionné efficacement.
Est-ce qu'on peut se dire qu'elle fonctionne toujours aujourd'hui ?
Oui, on peut perpétuer un mythe à 70 ans, 80 ans ou 100 ans de distance, le faire vivre, lui donner les apparences d'une réalité intangible, etc. Bien sûr, bon, cela dit, il faut quand même préciser, hein, toujours sur 1914, que les socialistes français, les syndicalistes français, la puissante CGT et la puissante SFIO, qui sont des puissances politiques et sociales à cette époque-là, sombrent dans le patriotisme, le nationalisme cocardier, etc. Il faut quand même voir que Jaurès est bien seul, il est très isolé dans sa position anti-guerre. Le mouvement socialiste international en 1912, je crois, j'ai pas de notes sous les yeux, mais enfin, il y a eu un congrès et qui a préconisé quand même avec des propos mesurés, mais qui a préconisé la crosse en l'air, la mutinerie et le refus de se battre, la fraternisation, etc. La CGT aussi, en 1912 jusqu'en 1914, est anti-guerre, dénonce la guerre de brigandage impérialiste. Et pourtant, lorsque le danger de guerre est là, en 1914, la droite française, Poincaré et consorts, ne reçoivent pas d'opposition. Bien sûr, on assassine Jaurès, mais Jaurès était isolé. Il n'y a pas une grande opposition. Le Parti socialiste va participer à l'effort de guerre. Il va même fournir des ministres de la guerre, comme en Allemagne d'ailleurs. Mais je te ferai remarquer une chose, c'est qu'en 1914, le politiquement correct, c'est mort aux Boches.
Entendez-vous dans les campagnes féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes.
En 1914, retournement de veste majeur, les socialistes et les gens de gauche adhèrent à ce qu'on a appelé l'Union sacrée.
Absolument, c'est retournement de veste. Alors, il y avait déjà des signes précurseurs. Beaucoup de socialistes participaient à la vie politique, parlementaire, bourgeoise. Il y avait quand même eu déjà des précédents de grands socialistes, mi-rang, brillants, etc., qui, bon, s'étaient largement compromis avec la droite. Bon, le révisionnisme allemand existait déjà. Hein, Bernstein, etc., c'est-à-dire, bon, la révolution s'est terminée, il faut faire des réformes, hein, il faut participer à des gouvernements bourgeois, surtout comme ça. Donc, c'est pas arrivé brutalement. Participer à des gouvernements bourgeois, c'est faire la politique de la bourgeoisie. Et faire la politique de la bourgeoisie, en 1914, c'est participer à la guerre. En 1914, le politiquement correct, c'était faire la guerre à l'Allemagne, hein, c'est-à-dire le nationalisme. Aujourd'hui, c'est l'Europe. C'est-à-dire, ah, grosse malheur, la guerre fratricide de 14-18, guerre civile, on dit certains. Mais c'est les mêmes, hein, qui impulsent les mêmes opinions qu'on doit avoir, si vous voulez. De cette manière-là, les manuels, hein, les programmes ont évacué les controverses qui ont eu lieu justement à l'intérieur du mouvement socialiste et qui ensuite après vont donner la rupture communiste-socialiste, hein, de 1920 en France. Cette controverse existe. En Allemagne, Karl Liebknecht est mis en prison, hein, comme Rosa Luxembourg, et c'est eux qui vont créer le mouvement spartakiste qui va tenter de faire la révolution en 1918, dont on ne parle pas d'ailleurs dans les manuels. Ça, c'est également extrêmement gênant. L'épisode très important dans l'histoire allemande de la révolution de 1918-1919 a totalement disparu. Comme ça, on explique le nazisme sans référence à cet épisode qui est décisif pour l'histoire de l'Allemagne. La période qui me paraît au contraire la plus intéressante là-dessus, c'est plutôt la période 1930-1940. Elle est en fin de compte beaucoup plus gênante et elle est beaucoup plus occultée que la période 14. La droite anti-Dreyfusard, nationaliste, etc., et la droite tout court, qui a été anti-Bosch en 1914, se met à être philo-Bosch. Et elle rencontre un courant pacifiste, hein, en partie du Parti Socialiste et ses filiaux de l'époque. Ça donne la période très curieuse et très intéressante du traité de Munich, de la politique munichoise. Cette période-là est beaucoup plus gênante en fait que la période 14-18, parce que en 14-18, après tout, il y a des nationalismes dans tous les pays. Généralement, on occulte l'historiographie officielle ou les programmes occulte les rapports entre cette politique nationaliste et les intérêts des grandes industries de l'époque. Évidemment, ça s'est évacué, ça devient uniquement de l'exaltation populaire, alors qu'il y a de sordides intérêts industriels énormes derrière cette opération. Mais la période d'après l'accession de Hitler au pouvoir, la période munichoise, cette période-là est beaucoup plus maltraitée encore, parce qu'elle est très gênante. En fait, elle est extrêmement gênante. Si on voulait l'enseigner de façon plus conforme à la réalité, on dirait des choses qui sont aujourd'hui encore difficiles à avaler.
On dirait quoi ?
On dirait que la bourgeoisie française, c'est-à-dire comme la bourgeoisie européenne à cette époque-là, a des sympathies, de grandes sympathies pour les régimes de Mussolini et d'Hitler, auxquels on fait le crédit d'être très anticommunistes et antisoviétiques. La politique munichoise est une politique de complicité avec les dictatures italiennes et allemandes. Ce qu'on espère, c'est que ces braves dictatures d'extrême droite vont se jeter sur la dictature stalinienne, sur l'URSS, et que, au mieux, on va pouvoir tirer les marrons du feu. Au pire, on va organiser une Europe sur les ruines de la Russie soviétique. Et jusqu'en 1939, jusqu'au pacte germano-soviétique, on va tout faire pour faciliter le travail de Hitler. Et en même temps qu'en France, d'ailleurs, s'organise un complot très bien organisé pour liquider la République. Et c'est un complot d'ailleurs tellement bien organisé qu'il réussit en 1940. Divine surprise, comme disait Maurras, la République s'effondre dans la défaite et on va pouvoir régler son compte non seulement aux institutions démocratiques républicaines, mais aussi au mouvement ouvrier qui avait fait tant peur en 1936. Une des périodes les plus maltraitées, c'est cette période-là. Il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Alors bien sûr, j'ai l'air de donner des leçons à tous les historiens, à tous les professeurs d'histoire. Je suis certain que des milliers de professeurs d'histoire ne sont pas dupes de ce qu'on essaye de les faire enseigner, et puis qu'ils prennent dans le manuel ce qui peut être pris, pas grand-chose, parce que les manuels sont d'une confusion remarquable, qui est une confusion qui est à la hauteur des programmes. Hein. En fait, les éditeurs font ce qu'on leur demande de faire. Les programmes étant faits de cette manière-là, les manuels ne peuvent être que mauvais. Tous éditeurs confondus, je vais me faire des ennemis mortels, mais je m'en fous, je suis à la retraite. Hein. Les manuels, à partir du début des années 80, sont pas fréquentables. Je suis tombé il y a peu de temps sur un livre, toute une série d'enseignants d'histoire-géographie, qui ont fait une étude assez serré des manuels et des programmes depuis, on va dire, 1980-90, sur les programmes et les instructions officielles d'histoire. J'y ai retrouvé ce que je ressentais depuis des années, hein, c'est-à-dire exactement ce que je pense sur la façon dont est traitée l'histoire et géographie. Hein. Loin d'être une matière d'éveil de l'esprit critique, mais ça devient carrément de la propagande et du catéchisme pour les institutions actuelles, que ça soit la Ve République, que ça soit l'Union Européenne. C'est de la propagande. C'est fait pour occulter les choses essentielles et surtout pour qu'il n'y ait aucune vision critique. Hein. Alors, c'est de la bouillie pour chat. Je peux dire, hein, au micro, librement, que toute ma carrière a été une longue, patiente, obstinée résistance à toutes les instructions officielles concernant les programmes et trucs comme ça. Car pour moi, je n'y voyais pas le service de l'histoire et de la géographie, mais j'y voyais le service d'une ligne idéologique. Non pas parce que cette ligne idéologique contredisait la mienne, mais parce que ce n'était plus de l'histoire et plus de la géographie. Ça ne me gêne pas, moi, d'exposer une analyse qui n'est pas la mienne, à condition que ça puisse se faire dans un cadre qui permette de voir de l'histoire. Si c'est de la propagande, propagande pour l'Europe, alors faut voir un petit peu les flots de propagande pour l'Europe. C'est quelque chose d'inimaginable. Cette Europe qui est née après la Seconde Guerre mondiale est présentée de façon totalement mensongère, mystifiante, mythologique, enfin, et basée sur un mensonge, elle ne peut pas exister, cette Europe-là. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, hein, je ne m'en réjouis pas spécialement, puisque c'est les décombres de l'Europe s'écroulent sur les espoirs d'une quantité de peuples, mais enfin, c'est comme ça. parler par exemple de l'origine de l'Europe, comment c'est présenté la plupart du temps comme une sorte de belle histoire édifiante des hommes traumatisés par la guerre et par l'affreux conflit entre le peuple français et le peuple allemand se rencontrent. La grande figure, c'est Robert Schumann, né en Allemagne avant 1918, avocat, donc moitié français, moitié allemand, et qui voit cette lutte fratricide entre ces deux peuples frères, etc. Il décide de créer l'Europe sur les bases de la paix et de la coopération mutuelle, blablabla. Les conditions dans lesquelles, le contexte dans lequel se crée cette Europe occidentale après la guerre sont totalement occultées. La guerre froide, le conflit latent, important entre le camp soviétique et le camp américain totalement exclu, la création de cette Europe d'abord dans ce contexte de guerre froide et d'hostilité annoncée contre les soviétiques, tout ça disparaît, la CED, toutes ces choses-là à peine évoquées. Et puis aussi le fait que cette Europe se soit bâtie sur des bases ultra-libérales dès le départ. Il s'agit de créer un marché. Et d'ailleurs, la CE s'est longtemps appelée dans les journaux le marché commun. C'était un marché commun. Il fallait faire un marché commun, une zone de libre-échange des marchandises et des capitaux et des hommes, etc. Bon, quelle a été la première ébauche de l'Europe? La CECA, Communauté économique charbon-acier. Ça s'est fait entre des trusts. Ça a été la première instance supranationale. Elle était constituée de patrons et de technocrates d'État. Elle était faite pour quoi? Pour l'amitié entre les peuples. Elle était faite pour permettre aux grands géants de l'acier, du charbon, de l'Europe en reconstruction, de partager les bénéfices, de se carteliser les bénéfices, au détriment évidemment des États et des populations. Et ça s'est fait sans aucun vote démocratique. Jusqu'en 92, aucun vote dans l'Europe. C'est uniquement une Europe qui est faite par des technocrates, représentants du grand patronat et des milieux d'État, et de droite évidemment, et du Parti Socialiste aussi d'ailleurs. Bon, autre mythe, l'Europe se serait faite pour exister en face des États-Unis. Non mais à qui veut-on faire croire une chose comme ça? Les États-Unis ont toujours été favorables à cette Europe-là, qui ne les a jamais gênés. Le capital, les intérêts américains ont toujours été présents dans l'Europe, sans aucune barrière, sans aucune restriction. Mais c'était au départ, de toute façon, le projet de Schumann-Monnet, c'est-à-dire, puisque ces imbéciles de peuples d'Europe veulent pas faire une communauté européenne, on va les contraindre à le faire en faisant des relations pacifiques. Vous connaissez la thèse de Montesquieu, des peuples qui se font du commerce ne font pas la guerre, etc., etc. On va faire du commerce et comme ça, il y aura plus de conflits en Europe. Tout ça relève du discours idéologique. Moi, je constate qu'en 57, lorsque la CEE est votée au Parlement français, un homme va voter contre et s'oppose et fait un discours où il dénonce le caractère technocratique, capitaliste de cette Europe qui va, en fin de compte, diriger les États contre les élus démocratiques de chaque peuple. Cet homme, c'est Mendès France. Or, ce texte, ce discours très célèbre de Mendès France, à ma connaissance, n'est reproduit dans aucun manuel. Alors qu'il est en train de décrire ce que va devenir l'Europe, technocratique, antidémocratique, soumise aux intérêts du grand capital. C'est fantastique. Bon, on raconte des histoires aux gosses, on prétend nous faire raconter des histoires aux gosses. Bon, ça plus la propagande effrénée, donc c'est un des aspects de ce dont on parle aujourd'hui. Ça, c'est
cela dit, ça fait un certain temps qu'il n'y a pas eu de guerre entre la France et l'Allemagne.
Pourquoi faire la guerre ? Puisque vous assurez la domination du grand capital sans avoir besoin de conquête. Il y a une guerre lorsqu'il y a besoin de conquête, il n'y a aucune contradiction entre le capital français, le capital allemand. L'Allemagne aurait bien tort de nous faire la guerre. Elle a obtenu avec cette Europe pacifique bien plus qu'elle aurait pu obtenir avec une domination territoriale ou politique. L'euro a été une création du mark allemand, enfin bon... Tous les peuples européens, sauf l'Angleterre, Grande-Bretagne qui n'appartient à la zone euro, mais tous les peuples de la zone euro se sont pliés aux desiderata de la banque allemande. D'ailleurs, on a installé la BCE en Allemagne. Donc, les concernes, les grandes sociétés allemandes qui fleurissaient déjà sous le Reich nazi, pourquoi nous ferait-il la guerre? Aucun intérêt.
Alors, quand on doit enseigner ça et qu'on n'est pas d'accord avec ça, comment on fait?
Vous me demandez une sorte de manuel de la clandestinité. j'enseigne le contenu de mon cours et ce que je pense de l'histoire. Je n'essaye pas de convaincre mes collègues d'enseigner la même chose que moi. J'enseigne ce qui m'apparaît être comme le plus proche de la réalité historique, hein, et le plus apte à comprendre le présent. J'essaye en quelque sorte en permanence de faire un parallèle avec le présent, de façon à rendre l'histoire vivante. Hein, je n'esquive pas les questions qui sont les questions un peu délicates. Hein. J'ai connu un temps où, par exemple, la guerre d'Algérie n'était quasiment pas abordée. Je l'abordais, moi. La guerre d'Algérie, si douloureuse hein, pour le passé français, les guerres coloniales, les massacres de 1945 à 1962, il faudra en parler un petit peu de ça. Ben, ils sont un petit peu disparus de l'enseignement. Bon, moi, je parle de Madagascar 1947. La puissance coloniale française, avec son armée, son administration, aidée puissamment par les colons français de Madagascar, ont procédé à un vaste massacre des opposants malgaches à la politique coloniale française.
On parle de 200 000 morts ?
C'est peut-être exagéré. Comment savoir, dans la mesure où, vous imaginez, il n'y a pas eu d'Albert Londres ni de héros des médias à cette époque-là. La plupart de ces massacres se sont faits dans le silence accablant de la presse française, qui en 1947 avait d'autres chats à fouetter. On n'en a pas parlé. Alors, exactement comme d'ailleurs l'affaire de Sétif hein, de 1945, où le massacre de milliers d'Algériens en Algérie pour faire cesser toute contestation anticoloniale, hein, etc., etc. Alors bon.
L'ordre est revenu dans la grande île et les unes après les autres, les factions entraînées dans la rébellion ont fait leur soumission. Dans la région de Tamatave, les chefs d'un groupe dissident viennent solliciter du représentant de la France le pardon et l'oubli. En présence de la population du village, attentive et silencieuse, la soumission est acceptée. Mais la coutume malgache exige qu'elle soit scellée par le serment du sang. Marqués au front du sang expiatoire, ces égarés d'hier reprendront place dans cette communauté de l'Union française qui ne peut vivre et prospérer que dans le calme et la paix.
Cette repentance permanente, qui fait qu'il faudrait s'excuser de l'histoire de France, permettez-moi de vous le dire, parfois touche aux confins du ridicule. Et je suis persuadé que ça exaspère nombre de nos concitoyens.
Depuis la polémique hein, sur la colonisation, les manuels ont tenu compte de cette polémique et prudemment ont mis des arguments dans les deux sens, en quelque sorte. Et en première, on voit d'un côté, dans une page, le côté négatif et dans une autre page, le côté positif de la colonisation. Je trouve que c'est un équilibre un peu artificiel, un cheval pour une alouette, en quelque sorte. C'est-à-dire que, est-ce que la léproserie de Schweitzer à l'embaréné peut et contrebalancer, par exemple, les milliers de Congolais qui ont eu les mains coupées par les colonialistes belges au Congo belge. Non, je crois pas. Si on racontait la colonisation belge au Congo, ce serait une série d'horreurs épouvantables. Et la colonisation française, avec le service du portage, la réquisition de forces des populations entières dans les villages pour servir à construire les voies ferrées qui servaient à acheminer les produits coloniaux jusqu'à la côte. Enfin bon, c'est de l'esclavage, quoi. Et est-ce que les vaccinations de l'Institut Pasteur sont à mettre en balance? On peut en parler. Mais enfin, je crois que bon, l'aspect négatif l'emporte extrêmement largement, on peut le dire. Moi, je n'ai aucune prudence à cet égard. La colonisation a été, dans l'ensemble, une barbarie, qui a été d'ailleurs dénoncée par Gide, par Céline, par Jaurès, par tous les gens qui avaient un petit peu de courage intellectuel, quoi.
Par la puissance de sa pensée et le rayonnement de son enseignement, la France règne sur le monde contemporain.
Ce qui est embêtant, c'est que le colonialisme, à partir, on peut dire, des années 30, a été parfaitement accepté par la gauche socialiste française. Marius Moutet, qui est, je crois, un ministre des colonies sous la 4ème République, c'est un socialiste. Et regardons Guy Mollet et Lacoste en Algérie, ce sont des socialistes, des gens de la SFIO, ils sont d'accord, ils pensent qu'on a une mission civilisatrice. L'instituteur socialiste montre bien que nous avons une mission positive dans ces pays-là, il faut les faire accéder à... Après, on leur donnera leur indépendance, mais il faut d'abord qu'ils soient civilisés. Enfin bon, ils sont assez peu nombreux, en fin de compte, les anticolonialistes. Les anticolonialistes, bon, il y a le Comintern, communistes, internationalistes, pendant la guerre du Rif, sont anticolonialistes, etc. Bon, mais bon, assez vite, leurs préoccupations deviennent des préoccupations d'histoire nationale et européenne. Bon, ils sont anticolonialistes, c'est sûr. Il y a plein de militants communistes qui, dans ces pays-là, ou en France, en métropole, ont payé très cher leur anticolonialisme. Mais ils sont minoritaires dans l'ensemble. On trouve que c'est bien la colonisation, ce qui fait qu'aujourd'hui ça fait mal de dire, évidemment, qu'on a fait des horreurs, délibérément maintenu ces pays-là dans le sous-développement pour pouvoir exploiter leurs richesses, et qu'on continue de le faire avec le néocolonialisme, avec De Gaulle après, et que ça reste nettement encore des rapports coloniaux avec ces pays-là. C'est tout le propos sur le sous-développement ou le développement, etc., qui est aujourd'hui en géographie extrêmement ambigu. On ne donne pas d'explication de clés du sous-développement, de clés du retard économique, etc., qui sont des clés historiques le plus souvent. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup ça. Il se trouve que, bon, dans les pays dits en voie de développement, sont au départ tous des anciens pays à domination coloniale.
Quand devant des élèves tu alimentes un cours avec ce genre de propos, tu es dans ton rôle d'historien, mais est-ce que tu es dans le rôle de professeur d'histoire que tes employeurs t'ont assigné ?
J'ai au-dessus de moi des inspecteurs et un ministre de l'Éducation nationale, mais n'oubliez pas que ces fonctionnaires sont payés par les impôts des citoyens. J'ai les enfants des citoyens en face de moi. C'est en fait aux citoyens qui sont souverains. Je vous rappelle que la souveraineté des citoyens est encore inscrite dans notre constitution, même s'il est sérieusement malmené. C'est aux citoyens que je dois des comptes. C'est pas à ces gens-là. Alors je sais, c'est pas très administratif ce que je dis, mais moi c'est par principe. Je dois des comptes aux citoyens qui me payent, aux parents de ces enfants à qui je dois un enseignement sincère et rigoureux et pas un catéchisme comme on veut me le faire enseigner. Certainement pas.
Un enseignant d'extrême droite avec des thèses sur la non-existence des chambres à gaz, par exemple, pourrait utiliser la même argutie en disant « Écoutez, moi je suis un citoyen, je transmets la vérité aux gens qui sont en face de moi parce que leurs parents payent des impôts. »
Ces propos ne sont pas fondés. Ça fait longtemps qu'on sait ce qui s'est passé dans les chambres à gaz. Ça ne pose même plus de problème à l'historien.
Il se trouve encore des gens qui se prétendent historiens.
On sait maintenant que ces gens ont été nommés en place par leurs propres amis. Ils se sont reproduits entre eux. Mais en fait, leur travail n'est pas un travail universitaire. Nier une réalité qui est établie très sérieusement par des documents venant de sources extrêmement diverses, qui sont des documents qui ne sont pas réfutables, eh bien, ce n'est pas de l'histoire, non. Non, ça c'est effectivement, c'est de l'idéologie. Je suis contre le discours idéologique, c'est-à-dire uniquement fondé sur une idée a priori, hein, que l'on plaque sur l'histoire. On fait, mais c'est pas mon cas, moi, je n'épargne personne, je n'épargne pas Staline, je n'épargne pas le Parti communiste français, je n'épargne personne, je dis comme ça s'est passé. Comme on peut l'établir par les documents. Et je puise la matière de mes cours dans des ouvrages historiques, scientifiques, sérieux, documentés, avec des références, et qui ne sont pas de simples discours de polémiques de médiatiques. Ce sont des ouvrages d'histoire que j'utilise. Je sais reconnaître encore un ouvrage rigoureux sur le plan de la méthode historique, un ouvrage qui n'est qu'un ouvrage de polémique. L'histoire de la Révolution française, par exemple. Il y a une quantité d'ouvrages sur la Révolution française que vous ne pouvez pas imaginer, des milliers. Depuis la Révolution française elle-même, on a écrit sur la Révolution française. Or, l'histoire de France est intimement liée à l'histoire de la Révolution française. Parmi ces ouvrages, il y a des ouvrages qui sont purement des ouvrages d'idéologie, de haine ou d'apologie, ou de trucs... Bon, pauvre Marie-Antoinette, etc., pauvre Louis XVI, affreux terroriste, affreux jacobin, trucs comme ça. Bon, ou au contraire, apologie des jacobins, apologie de trucs comme ça. Bon, c'est pas dans ces ouvrages que vous allez trouver, comment dirais-je, la matière d'un cours sur la Révolution française. Il faut prendre quelque chose qui est documenté. Même si c'est dans cet ouvrage, il y a l'opinion, bien évidemment la sensibilité politique, sociale de l'auteur, il n'en reste pas moins qu'il y a la réalité. Elle est citée, la réalité. Vous prenez par exemple l'histoire socialiste de la Révolution française de Jaurès. Le titre semble indiquer un ouvrage purement idéologique, un socialiste écrit sur la Révolution française. Erreur ! C'est un ouvrage qui est fondé. Jaurès a, pour son ouvrage, consulté les procès-verbaux de l'Assemblée nationale, qui sont d'ailleurs à l'Assemblée nationale, hein, toujours à l'Assemblée nationale. Des documents irréfutables, où vous avez toute la correspondance de la République avec ses envoyés en mission, etc. Vous avez là-dedans des sources irréfutables. Il a écrit une histoire. C'est bien sûr une histoire qui lui permet d'éclairer son combat de socialiste de la fin du XIXe siècle. Mais c'est de l'histoire. En revanche, bon, je citerai n'importe quel Marie-Antoinette Rie, le mouron rouge, etc. C'est un épouvantable sort de l'aristocratie ballottée dans cette période épouvantable. Bon, ça, c'est de la blague. C'est à peu près du niveau angélique marquise des anges, quoi, en gros. Hein.
Comment est présentée dans les manuels d'histoire et donc dans les instructions officielles la période de l'occupation en France ?
Ça dépend de deux choses. D'abord des auteurs. Dès la fin de cette période, il y a des gens, des collaborateurs ou des sympathisants collaborateurs qui ont essayé de se défendre, de faire un plaidoyer pour ce qu'ils avaient fait, déformer la réalité pour essayer de trouver des excuses à l'inexcusable. Et puis il y a eu des gens au contraire qui ont été dans la résistance ou qui sont du côté de la résistance et qui ont fait un travail d'apologie de la résistance, parfois sans nuance, etc. Et puis il y a des historiens qui ont essayé patiemment de trouver les archives. C'est pas simple, hein, parce que vous savez que les archives, il y a une période où vous ne pouvez pas consulter les archives à moins de 50 ans, etc. Bon, il y a une loi, etc., qui d'ailleurs a été renforcée par des lois de Giscard d'Estaing. Et puis ça dépend aussi de la période. Au début, il y a eu une historiographie gaulliste qui a tendu à en quelque sorte, disant tout le monde était résistant, même des gens qui étaient des modérés, etc., ce qui n'est pas vrai. Et les communistes, eux, ont eu un discours un peu différent. Et certains ont eu un discours du genre il n'y a que nous qui étions résistants, en quelque sorte, ou nous étions... Ce qui est en partie faux, en partie vrai. Ils ont été, bien sûr, extrêmement actifs dans la résistance, mais ils n'ont pas été les seuls.
Quelle version et quelle histoire est officiellement délivrée en cours d'histoire, en terminale ?
Il y a eu une évolution, quand même. C'est assez contradictoire. En même temps, on a accentué la responsabilité de Vichy dans l'épuration raciale, dans la politique antisémite et de massacre, de rafle des Israélites en France. Et en même temps, on a atténué sa responsabilité politique, enfin son contenu politique. Est-ce que le régime de Vichy se caractérise uniquement par sa politique antisémite ? Ou est-ce que, plus largement, c'était pas le contenu politique de l'extrême droite, de la droite française ? Et derrière l'extrême droite française, le patronat français. La partie qui a été la plus négligée, me semble-t-il, c'est la collaboration. Comme on dit des milieux économiques, quand on ne veut pas dire le patronat, on dit les milieux économiques, vous avez remarqué le doux euphémisme. Malgré la thèse de Paxton, qui dans le début des années 70 a fait beaucoup de bruit, hein, où il établit que la totalité du patronat français, à de très rares exceptions près, a collaboré très activement avec la puissance nazie, ça a été très très négligé.
Parce que ça se dit en cours ça aujourd'hui ?
Par moi, oui.
Et dans les manuels d'histoire ?
Ça dépend. Il y a des manuels où j'ai vu des statistiques économiques de Rousseau ou d'autres sur la collaboration économique. Et puis dans d'autres manuels, c'est totalement occulté. Il y a encore un enjeu politique. Et moi, je me souviens d'une réunion d'harmonisation d'une épreuve de baccalauréat. Il y avait un sujet sur la résistance, l'occupation, où le collègue qui prétendait nous donner la version officielle politiquement correcte de la correction, il fallait pas que le candidat dise que le régime de Vichy était un régime fasciste. Il y a des mots tabous, hein. Faut pas le dire. Non, faut dire c'est un régime autoritaire, brutal, conservateur, etc. Mais bon, pas fasciste. Or, c'est un régime fasciste, évidemment, comme le régime de Franco. Le régime de Franco, officiellement, dans l'historiographie officielle, ce n'est pas un régime fasciste. C'est extraordinaire. Hein, Franco, non. T'es pas fasciste parce qu'il n'était pas officiellement à la Falange. Alors, c'est un des arguments qui sont ramassés dans l'historiographie officielle, alimentée par de grands historiens comme Pierre Milza. Milza est un spécialiste du fascisme italien. Donc il a tendance à penser que tous les autres mouvements ne sont pas réellement fascistes. Alors c'est bien pratique, ça permet de mettre en dehors du fascisme des régimes qui sont très encombrants, très gênants, parce qu'on a collaboré avec eux. Hein. Or c'est un régime fasciste, voilà. C'est une démystification de cette histoire, bien sûr. ce n'est pas innocent. Je pense que c'est une certaine version de l'histoire. Vous voyez comment est présentée la Ve République, vous ne pouvez pas penser que c'est innocent.
Comment c'est présenté, la Ve République, dans les manuels d'histoire?
Alors, je vais vous brosser le tableau. En gros, la Ve République, c'était affreux, caca, instable. Ah, affreusement instable, pas sérieux, etc. Heureusement, De Gaulle arrive et met de l'ordre là-dedans. Le coup d'État de De Gaulle, car c'est un coup d'État, est totalement occulté, je n'ai vu ça nulle part, alors qu'il est établi depuis pas mal de temps. On a assez de témoignages de gens encore en vie d'ailleurs, que c'était un coup d'État.
T'es en train de nous dire qu'en 1958, il y a eu un coup d'État en France?
Absolument.
Mais j'ai jamais appris ça en cours d'histoire, moi.
Ah, heureusement tu m'as rencontré. Bien sûr, il y a un coup d'État. J'ai une référence, au moins, même si elle n'est pas précise, j'ai une référence. Il est passé sur Canal+. Il y a à peu près une dizaine d'années, une émission sur le coup d'État de mai 58 de De Gaulle. Absolument remarquable. Tous les témoins et acteurs de cette époque-là ont participé à cette émission. C'est une journaliste assez célèbre qui a fait cette émission absolument fantastique, où elle dit très clairement que c'est un coup d'État. Et en introduction de son émission, elle dit « Mais cette histoire ne vous sera pas racontée dans les manuels. » C'est extraordinaire. Et c'est vrai. Alors moi, j'ai précieusement enregistré cette émission, que je passe absolument à toutes mes classes de terminale. La démonstration est éclatante. J'ai lu depuis, d'ailleurs, une histoire secrète de la Ve République, une histoire collective par des historiens et des journalistes. Dans ce livre, on voit tous les mécanismes de ce coup d'État, qui est un coup d'État qui n'a rien à envier à un coup d'État d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Mais c'est intelligent, le coup d'État de De Gaulle, parce que il ne veut pas apparaître comme arrivant au pouvoir sur les épaules des parachutistes, comme on dit d'ailleurs dans l'émission, alors qu'il arrive au pouvoir sur les épaules des parachutistes et de l'insurrection des Algérois du 13 mai 58, de l'extrême droite. C'est l'extrême droite fasciste qui met De Gaulle au pouvoir, attendant que De Gaulle, bien sûr, leur renvoie l'ascenseur, c'est-à-dire, après avoir étranglé la République, puisse maintenir la présence coloniale française en Algérie. Manque de bol, ils se sont fait cocufier, c'est évident. Ils vont essayer d'ailleurs d'assassiner De Gaulle.
Alors, on replante le décor rapidement. 1958, les généraux en Algérie font un putsch. Il faut le rappeler, à l'époque, l'Algérie est un département français.
Ce coup du 13 mai 58, c'est parti d'une insurrection des milieux Algérie française d'Alger. Étudiants, Lagaillard, Ortiz, petits commerçants, poujadistes, etc. Ces gens d'extrême droite ont une grande peur que la République, la 4ème République, finisse par négocier avec les nationalistes algériens et les lâche en fin de compte. Donc pour maintenir la présence militaire française en Algérie, ils vont tenter un coup de force. Ils prennent le pouvoir à Alger. L'armée complice les rejoint avec Massu et bientôt le chef d'état-major de l'armée française en Algérie, Raoul Salan. Officiellement, donc, les partisans de l'Algérie française d'Alger ont pris le pouvoir à Alger avec la complicité de l'armée. Donc l'armée s'est mise en rébellion par rapport au gouvernement français. C'est un acte déjà extrêmement grave, puisqu'il s'agit de l'autorité de la République sur une partie du territoire de la République. Ce coup a été préparé très à l'avance. Une bonne partie de la police est noyautée en Algérie, en tout cas en France aussi certainement. Beaucoup de fonctionnaires sont dans le coup. Il y a des réseaux gaullistes en France très bien organisés, dont certains sont de véritables barbouzes. Et ils sont plus ou moins en relation avec des mouvements d'extrême droite française, tous les nostalgiques. Ces gens veulent abattre la République. Ils ne veulent pas seulement poursuivre la guerre en Algérie, ils veulent abattre la République et faire un régime autoritaire en France. Les choses sont claires. Les gaullistes arrivent à prendre de vitesse l'extrême droite et à faire crier « Vive De Gaulle » à Salan. En quelque sorte, De Gaulle, très habilement, se présente comme l'homme de la situation. Mais en fait, ses propres troupes organisent le désordre et la désobéissance et le putsch qui est en train de se faire. La République ne va pas complètement se suicider tout de suite. D'abord, il faut convaincre le président du Conseil, Pflimlin, de démissionner. Et il faut aussi contraindre Coty à faire appel à De Gaulle, qui n'a aucun pouvoir électif, qui ne représente rien, qui n'a aucune légitimité, sauf les gens en Algérie qui crient « Vive De Gaulle au pouvoir », etc. Alors il le fait en menaçant, pas lui, ses troupes, en menaçant la République d'un véritable coup d'État militaire, le plan résurrection. C'est un plan, il est fait, on peut le voir encore, ce qu'on existe. Les généraux, les colonels, les officiers supérieurs qui étaient cadés dans le coup, en France comme en Algérie, il s'agit simplement d'investir Paris, avec la complicité de certaines unités de police et de CRS. des gendarmes mobiles. C'est un coup bien préparé avec l'aviation, les parachutistes, etc. Ils n'auront pas à appliquer ce plan militaire puisque la République va se faire harakiri avant. La presque totalité de la classe politique, à l'exception de quelques personnalités comme Mitterrand ou Mendès France, et à l'exception du Parti communiste aussi, ils vont céder. C'est-à-dire qu'ils vont... Le coup d'État est fait, Flimelin démissionne, Coty fait appel à De Gaulle pour former un gouvernement, et les partis, quasi-totalité des partis, à part le Parti communiste et quelques personnalités, vont voter les pleins pouvoirs à De Gaulle. Le coup d'État est réussi. Pas eu besoin de faire, de parachuter les militaires en France. Mais c'était quand même un coup d'État. Coup d'État soft. Le sang n'a pas coulé. Mais c'est un coup d'État. Puisqu'en fait, c'est sous la contrainte et sous la menace de la guerre civile que De Gaulle arrive au pouvoir. Guerre civile qu'il a lui-même organisée.
De Gaulle parvenu au pouvoir après un putsch. Voilà un pan de l'histoire de France tel qu'il n'est pas enseigné à l'école. Et c'est sur cette page que nous allons clore cette émission que vous pouvez réécouter sur www.polemixetlavoixoff.com. On se retrouve très bientôt sur cette même antenne pour de nouvelles aventures radiophoniques. À salut.
Terminé.
Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.